que je voudrais essayer de faire dans cet exposé, c'est de substituer une fois de plus la vérité, si je puis, à la légende. Alors il y aura trois parties dans cet exposé. Je voudrais regarder sa carrière littéraire, nous regarderons ensuite sa carrière politique, et dans une dernière partie, je regarderai sa vie intime et sa pensée philosophique. Carrière littéraire. Eh bien, partons de ceci que Victor Hugo passe pour être le père du romantisme, et que le romantisme, c'est un dégoût de la vie avant la vie, taedium vitae, comme on disait, vous savez, un dégoût de l'action, un désespoir sans cause, enfin, c'est le mal du siècle. Eh bien, Hugo, père du romantisme, n'a jamais connu personnellement le mal du siècle. Il y a un de ces personnages qui est Hernani, qui se définit lui-même en disant « c'est une force qui va », comme une espèce de grosse force orientée vers un lointain obscur. Lui, c'est une grosse force, mais qui sait parfaitement où il va. C'est un homme gouverné, dirigé, qui sait ce qu'il veut. Il a une devise sur sa bague que son père lui avait donnée, « perseverando », c'est facile à comprendre, en persévérant, sous-entendu, on réussit toujours. Et dans une des lettres à sa fiancée, il avait, je crois, 18 ans, il lui dit « vouloir fermement, c'est pouvoir ». Ce n'est pas toujours vrai, mais il était comme ça. Et bien, regardons-le progresser du point de vue littéraire. Il avait 17 ans, vous entendez, il avait 17 ans lorsqu'il essaye de se faire déjà connaître. Il y avait un concours annuel ou bisannuel de poésie française, organisé par l'Académie française, et ce concours de poésie avait un sujet imposé. Ça s'appelait « Du bonheur de l'étude ». Ce n'est pas toujours vrai, mais enfin, il fait de son mieux. Il est très jeune, il n'obtient pas le premier prix, ni le second prix, mais il obtient une mention. C'était déjà quelque chose, je ne connais pas le nombre des concurrents, mais enfin que ce petit garçonnet de 17 ans obtienne une mention, c'était déjà satisfaisant. Ben il ne s'en satisfait pas, tellement il est ambitieux, et il ressemble un peu à ce personnage de César qui prétendait vouloir être, il préférait être le premier dans son village plutôt que le second à Rome. Alors, il n'a pas réussi à 17 ans, ce qui est tout de même normal, à être le premier à Paris, et il va essayer d'être le premier ailleurs. Où donc? Toulouse. Pourquoi? Parce qu'à Toulouse, il y avait à ce moment-là les Jeux floraux. On me dit que ça existe toujours aujourd'hui, mais c'est un peu amorti. Les Jeux floraux, au début du XIXe siècle, avaient une très grande notoriété. La récompense suprême, c'est pourquoi on l'appelait floraux, c'était une fleur, un lys en or, vous savez, pas de l'or très pesant, mais réellement un lys d'or. Et le jeune homme ou le poète qui avait le lys d'or avait une consécration. Alors le sujet des Jeux floraux pour cette année-là, c'était le rétablissement de la statue de Henri IV. La Révolution avait jeté par terre, avait jeté dans la Seine la statue équestre d'Henri IV, la Restauration l'avait restaurée, remise sur son socle, et on demandait au jeune poète royaliste de s'exciter sur ce sujet. Alors Victor Hugo, le jeune Victor Hugo fait ce sujet, il traite le mieux possible le rétablissement de la statue d'Henri IV, et il triomphe. Il a 18 ans et il obtient ce lys d'or. Ce lys d'or va lui valoir un double avantage. D'abord un académicien à la fois toulousain et français, enfin né à Toulouse, vivant à Toulouse, mais allant souvent à Paris, qui s'appelait François de Neuchâteau, s'intéresse à lui. Et c'est ce François de Neuchâteau qui va prononcer sur ce jeune Victor Hugo une phrase qui lui plaît beaucoup. « J'ai découvert un enfant sublime ». Comme François de Neuchâteau sera rapidement oublié, Victor Hugo dira un peu plus tard « Quand j'étais jeune, Chateaubriand, c'était pas vrai, c'était pas Chateaubriand, m'avait appelé enfant sublime ». Mais ça le valorisait davantage. Et ce que l'on ne sait pas, ce qui a été découvert il y a une trentaine d'années, c'est que Victor Hugo, malin comme tout, va essayer de couper au service militaire grâce à ses jeux floraux. À cette époque, les lauréats de l'Académie française n'allaient pas à la caserne. Et Hugo va exciter les gens de Toulouse à faire des réclamations au ministère de la guerre en disant « Mais nous ne comprenons pas pourquoi les lauréats des jeux floraux n'auraient pas le même avantage que les lauréats parisiens. » Alors ça agite les Toulousains qui multiplient les lettres à l'égard du ministère de la guerre, ils obtiennent gain de cause, si bien que le jeune Victor Hugo, qui se vantera un peu plus tard d'avoir un goût militaire puisque son père était général, aura fait ce qu'il fallait faire pour ne pas être soldat. En 1822, il a juste 20 ans, 1822, il publie son premier recueil qui s'appelle « Odes et poésies diverses ». Il est appuyé parce qu'il est malin, il se fait appuyer auprès de Louis XVIII qui n'avait peut-être pas un très grand goût littéraire mais qui avait déjà, comme on dirait, un conseiller culturel. Et Louis XVIII décide que c'est un très beau livre et qu'il va lui faire avoir une pension. Cette pension n'est que de 100 francs par mois, c'est-à-dire 1200 francs, même à l'époque c'était pas beaucoup, mais ça va permettre à Victor Hugo, qui était déjà fiancé, de se marier à 20 ans juste avec cette Adèle Fouché qu'il connaissait depuis sa 16e année. Alors il faut savoir, ça m'intéresse de vous le dire, que Victor Hugo part avec presque rien. Adèle Fouché, sa petite jeune femme, n'a pas d'argent, lui-même, vous voyez, n'a pas d'argent, et il va finir par faire une fortune colossale. Tout ça à la force du poignet, parce qu'il va publier. Je vous disais, il y avait un instant, que Victor Hugo est à l'origine du romantisme, mais j'appelle votre attention sur une très curieuse préface, qui est de 1824, c'est-à-dire 2 ans après, préface des Nouvelles Odes. Je vous signale tout de suite que c'est la première préface, et qu'il va, dans la deuxième édition, la faire disparaître. Elle est très curieuse, cette préface, parce que vous y lisez ceci. J'entends beaucoup parler autour de moi de classique et de romantique, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais que la bonne et la mauvaise littérature. Il y a la très bonne littérature chez les classiques, de la très bonne littérature chez les romantiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hugo, qui est en proie, qui est dans, plein, dans la bataille romantique, ne veut pas se compromettre. On dira aujourd'hui, ne veut pas se mouiller. Les jeunes romantiques, ben, c'est la jeune génération, c'est comme on dira plus tard la nouvelle vague. Et les classiques, ce sont les gens établis, installés, Académie française, du côté du roi. Il ne veut se brouiller ni avec les uns, ni avec les autres. Il veut jouer sur les deux tableaux. En 1825, dans l'année suivante, c'est le sacre de Charles X. Peut-être savez-vous que Louis XVIII n'avait pas osé se faire sacrer à Reims comme le faisaient les rois avant la Révolution. Il y avait encore en France un très profond souvenir de la Révolution et il avait peur, Louis XVIII, de faire de la provocation en faisant un sacre. Nous sommes maintenant en 1825, le nouveau roi Charles X se dit « la monarchie a repris ses assises, on peut y aller ». Mais il faut trouver un poète pour chanter le sang du sacre. Alors on ouvre, je ne sais pas, une sorte de concours. Lamartine, qui a 12 ans de plus, qui a 12 ans de plus que Victor Hugo, se met sur les rangs et finalement c'est Victor Hugo, 23 ans, vous entendez, 23 ans, qui va être choisi pour le chant du sacre, parce qu'il s'est débrouillé, parce qu'il a plus de relations que Lamartine. Il écrit son chant du sacre, qui n'est pas très brillant, mais enfin tous les compliments nécessaires y étaient, et il va obtenir une double récompense, 500 livres, ce qui était intéressant, et surtout une promotion, enfin une nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur. Avoir la Légion d'honneur à 23 ans, je vous assure que c'était pas mal. Je vous dirais même, entre parenthèses, qu'à ce moment-là, profitant que pour la première fois il a un peu d'argent, il va organiser un voyage qu'il va offrir à sa femme et à sa petite fille, Léopoldine, dont je vous parlerai plus tard, un voyage à Chamonix, comme on disait alors, et comme c'est toujours un homme très pratique, comme vous le voyez, il a décidé que ce voyage ne lui coûterait rien et même lui rapporterait quelque chose, car il a vendu d'avance à un libraire généreux qui s'appelait Monsieur l'Advocat, trois odes que devait lui inspirer le spectacle de la montagne. Maintenant, 1827. En 1827, c'est ce que tous les bouquins nous avaient, ce qu'on me disait en classe, quoi. Le manifeste du romantisme, c'est la préface de Cromwell. Seulement, c'est 1827. Et en 1827, les romantiques ont déjà gagné la partie. Je vous ai montré comme Victor Hugo en 24 était réservé, mais en 27, sachant que les romantismes sont, on le vend en poupe, il se déclare romantique et il fait ce manifeste. Il est très intelligent, il a un don littéraire exceptionnel et il est admirable pour donner des formulations remarquable à ceux qui courent les rues. Mais enfin, je vous dirais, il s'engage quand la bataille est gagnée. Il y avait un double courant dans le romantisme, il y avait des romantiques presque républicains, enfin de gauche, comme on dirait aujourd'hui, il y en avait qui étaient de droite, les uns s'appelaient les Bousingots, les autres s'appelaient les Jeunes France. Et Victor Hugo s'aperçoit, enfin constate, qu'il n'y a pas encore de chef de ce jeune romantisme français. Alors il va se présenter pour être leur chef, et il va se trouver acclamé. Il a une chance, c'est que le gouvernement de Charles X interdit une de ses pièces. Nous sommes en 29, cette pièce s'appelle Marion de Lorme, elle est considérée comme une pièce assez révolutionnaire. Alors Victor Hugo va bénéficier du courant de curiosité autour de cette pièce qui ne peut pas être jouée mais qui va être imprimée. C'est un grand succès pour une pièce qui va se vendre parce qu'elle est interdite. Tempête autour de son nom encore au moment de Hernani, vous savez la bataille d'Hernani qui n'a pas de caractère politique, c'est classique contre romantique. Nouvelle tempête en 1832, c'est maintenant Louis-Philippe, parce que le gouvernement Louis-Philippe lui-même trouve que Victor Hugo va trop loin avec une pièce qui s'appelle Le Roi s'amuse, deux pièces interdites, c'est excellent. Enfin, vous voyez qu'il est en train de monter en flèche. Il y a quelqu'un qui le gêne, quelqu'un qui l'importune, et c'est Lamartine, figurez-vous. 12 ans plus que lui. Nous savons ça depuis un certain nombre d'années par la publication du journal d'un petit bonhomme un peu oublié qui s'appelait Fontanet, avec un Y à la fin, Fontanet qui était l'amant d'une des filles de Madame d'Orval, qui était très introduit dans le monde littéraire, qui avait écrit un journal et qu'on a publié il y a environ 30 ou 40 ans. Dans le journal de Fontanet, il y a un récit d'octobre, je crois bien, enfin 1831, je suis sûr de la date, où il se promène sous les arcades du Palais Royal avec le jeune Victor Hugo, qui se déboutonne, qui est très gentil avec lui, et qui lui dit, vous savez, c'est Lamartine qui m'embête. Lamartine, au fond, c'est un poète du dimanche, disait-il. Et c'est assez vrai. Lamartine est un diplomate, c'est un homme de plus en plus occupé de politique, qui a une inspiration littéraire profonde, mais qui ne veut pas consacrer trop de temps à la poésie. Tandis que vous avez bien vu que Victor Hugo est un homme qui vide la poésie, il vide ses livres. Alors il dit, je m'en vais déboulonner Lamartine, mais il le dit sans méchanceté, ce n'est pas un homme mauvais, vous allez le voir. Quelle est la spécialité de Lamartine? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la poésie lyrique. Il venait de publier les Harmonies poétiques et religieuses en 1830, qui était un ruissellement lyrique sur la France. Alors si vous regardez bien la bibliographie de Victor Hugo, si vous voyez ce qu'il a publié entre 1831 et 1840, c'est un bombardement de la position adverse. Vous avez d'abord les feuilles d'automne, vous avez les chants du crépuscule, vous avez les voix intérieures, vous avez les rayons et les ombres. Tout ça, c'est de la poésie lyrique, pour montrer qu'il est beaucoup plus fort que Lamartine. Il va même assez loin au chapitre 9, ça s'appelle Livre 9, je crois, de Jocelyn, qui est de 1836. Lamartine avait esquissé un thème que plus personne ne reprendra, parce qu'à mon avis, c'est un très mauvais thème, à savoir le thème de l'indifférence de nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la nature nous ignore tellement qu'il pleut quand on a envie de rire et qu'il fait du soleil quand on est triste. Bon. Alors Victor Hugo s'empare de ça et en tire un chef-d'œuvre que vous connaissez bien, qui s'appelle La Tristesse d'Olympio. Si bien que Lamartine, qui n'a rien d'un mauvais homme, vous savez, rien non plus, pas plus que Victor Hugo, s'aperçoit qu'il est battu. Et à partir de 1839, à partir du recueil qui s'appelle Les Recueillements, Lamartine se retire en disant, bah, j'ai trouvé plus fort que moi. Ça me fait penser à la grande querelle du XVIIe siècle entre Voltaire, entre Corneille et Racine, où les choses ne sont pas passées de la même manière. Corneille était très jaloux, le jeune Racine l'exaspérait, et il espérait au contraire que Racine se casserait les reins. Tandis que très gentiment, Lamartine dit, bon, ben, je laisse le terrain littéraire à cet homme qui est plus fort que moi. Nous arrivons à 1841, Victor Hugo a 39 ans, et figurez-vous qu'il entre, après deux échecs, mais enfin troisième candidature, il entre à l'Académie française à 39 ans. Laissez-moi sourire un instant en vous racontant un souvenir personnel. Je connaissais très bien le vieux père Claudel, qui avait été élu à l'Académie française à 77-78 ans. Et un jour devant moi, à Genève, dans une réunion d'étudiants, il a été très gai, et il nous a dit un jour ceci exactement, vous savez, 80 ans, hein, c'est l'âge de la puberté académique. Et bien Victor Hugo rentre à l'Académie à 39 ans, c'est un succès énorme. Et figurez-vous qu'à partir de cette date, jusqu'à 1852 à peu près, s'ouvre dans la vie littéraire de Victor Hugo ce que j'appellerais des années funestes. Je m'explique. Jusqu'à présent, Hugo avait fait de son talent l'instrument de son ambition. Je veux dire que les sujets qu'il traitait ne lui tenaient pas particulièrement à cœur, et il s'était d'ailleurs défini, avec un certain cynisme, comme un écho sonore. Un texte de lui dit « Mon âme de cristal, placé au centre des choses, répercute ce qu'elle entend ». Mais remarquez bien que se définir soi-même comme un écho sonore, c'est faire un aveu d'insubstance. Un écho n'a pas de personnalité, un écho retentit, répète. Et bien voilà Victor Hugo maintenant qui a réussi, quoi. Quand l'aiguillon n'y est plus, l'ambitieux comblé s'arrête, et son ambition est comblée. Il a pas mal d'argent maintenant, il est devenu un homme presque riche, enfin très aisé, il est de l'Académie française, il n'a plus besoin de se fatiguer. Là, si vous regardez ses publications, entre 1841 et 1852, il va reparaître avec... non pas l'histoire d'un crime, mais Napoléon le Petit, il écrit des choses encore, mais il ne publie plus rien. J'ai l'impression, voyez-vous, je voudrais être respectueux tout de même, c'est un peu le taureau devenu bof, enfin c'est un monsieur réussi qui s'installe, qui digère, qui se carre et qui est en passe de très mal finir. Supposez qu'il soit mort en 1848, et vous verrez, je vous raconterai une chose tout à l'heure, il a frôlé la mort en 48. Et bien s'il était mort en 1848, qu'est-ce qu'on verrait dans les dictionnaires? On dirait Victor Hugo, un garçon très doué, précocement illustre, mais qui est passé assez rapidement des choses futiles aux choses sérieuses. Il va être nommé pair de France, il va s'occuper avec une conversation politique avec son vieux roi, mais enfin c'était un homme qui n'aurait pas laissé la dimension, un homme de la dimension de ce qu'il va devenir. Par bonheur, les événements de 1848-51 vont le remettre sur ses pieds, vont lui arracher son habit de pair de France dont je vous parlais tout à l'heure, et lui faire écrire des choses qui cette fois ne sont plus des échos. Tout ce qu'il va écrire à partir de l'année 1851, après le coup d'État, ce coup d'État qu'il a chassé, comme vous savez, il est en exil, tout cela va s'emplir d'une valeur de témoignage et d'annonciation. C'est un homme qui sera derrière tout ce qu'il dit, et des choses qui lui tiennent profondément à cœur. Vous savez qu'il va d'abord pendant quelques mois à Bruxelles, de là il va aller à Jersey il va aller à Guernsey, où il sera à partir de 1855 jusqu'à 1870, et dès lors, on peut dire que de ces îles au milieu de la mer, au milieu de la Manche, comme de volcans au milieu de la mer, hein, vont sortir ces gerbes d'étincelles dont le rayonnement ne s'est pas encore atténué, qui s'appellent les châtiments, qui s'appellent la légende des siècles, qui s'appellent les contemplations, qui s'appellent les très grands romans. Vers 1867, Hugo est toujours en exil. Figurez-vous, quand il était parti, il avait l'impression que ça durerait pas longtemps, il tenait Napoléon III pour un César de carnaval, il écrivait à son fils, tu sais, dans 6 mois, on va revenir triomphant. Pas du tout. Les années passent. En 67, il a dépassé déjà l'âge où son père et sa mère sont morts. Il ne se croit pas promis à une longévité particulière. Et dans un carnet que j'ai retrouvé, que j'ai publié, il écrit ceci. J, apostrophe Y. Y, c'est l'exil. J mourrai peut-être, virgule. Mais accru, dit-il. Accru. Eh bien, c'est vrai. Sa taille aura beaucoup grandi en exil parce que, je vous le répète, il dit des choses cette fois qui lui tiennent terriblement à cœur. Et cette bataille qu'il va mener contre Napoléon III, il va la gagner par la chance du destin, Napoléon III mourra avant lui, d'abord sera détrôné en 1870, et puis en 1873 disparaîtra, et Hugo a encore du temps à vivre. Alors rendez-vous bien compte que quand il va rentrer en France avec la République, il avait dit en 59, je ne rentrerai que quand la liberté rentrera, la liberté revient, soi-disant, avec la République de 4 septembre 70, Hugo fait un retour triomphal. Et je ne pense pas qu'il y ait dans la littérature française l'exemple d'une gloire aussi étonnante, aussi étincelante et aussi populaire que la gloire de Victor Hugo à partir de 1870-71. Il a écrit des quantités de choses, il laissera du reste des masses d'inédits, il peut publier coup sur coup des quantités de choses, et même quand après 1878, il aura eu un accident dans la tête, une attaque qui va le réduire, il continuera à publier parce qu'il a tellement d'inédits qu'il peut faire semblant d'être présent en sortant un livre par an. En février 81, lorsque Victor Hugo va entrer dans sa 80e année, il y aura une très grande manifestation politique, c'est entendu, mais aussi littéraire. On va faire défiler tous les écoliers de Paris. On a fait venir à prix d'or des wagons de fleurs de la Côte d'Azur. On a remis un petit bouquet de violettes à chacun des écoliers. Et comme c'est en février, qui n'a pas voulu apparaître de peur de prendre froid, il est derrière sa vitre qui fait bonjour à ces gens qui défilent. Un 2 millions de Parisiens vont défiler devant ses fenêtres. Et vous savez sans doute ce que seront ces funérailles qui ont été racontées par beaucoup de gens et par quelqu'un à moi qui y était. Étant raconté par Barrès d'une part et d'autre part par Claudel qui avait 18 ans et qui m'a dit j'étais grimpé sur un candélabre du Faubourg Saint-Germain, quand j'ai vu passer ce fameux cortège. Vous savez un peu ce que c'était, hein, c'était très extraordinaire. On avait exposé le corps de Victor Hugo dans un énorme catafalque sous l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe était voilé d'un demi-crêpe géant. Dans la nuit qui précédait ce très beau jour, du reste un jour splendide du 1er juin 1885, on avait mis des cuirassiers tout autour de la place de l'Étoile. Ces cuirassiers portaient des torches, alors vous imaginez l'effet épique que faisaient ces reflets de torches sur les cuirasses des cuirassiers. Et le 1er juin va défiler dans les rues de Paris ce corbillard du pauvre, puisqu'il avait demandé à être enterré dans le corbillard du pauvre, précédé d'autres voitures de fleurs. Plus d'un million de Parisiens étaient dans les rues, souvent il y en avait qui pleuraient, enfin c'est Victor Hugo qui vient de mourir, un triomphe quoi. Alors la conclusion de cette première partie de la carrière de Victor Hugo, c'est que c'est un homme qui avait admirablement conduit sa barque. Voyez-vous son génie, il ne l'avait pas étranglé comme Rimbaud fera volontairement du sien. Il n'avait pas galvaudé, comme fera un peu Lamartine, son génie, si je puis dire. Il l'avait considéré comme un gisement, comme un grand trésor, et qu'il avait donné la mesure de son tempérament d'économe dans l'économie, précisément, dirigée par lui-même de son génie. Carrière politique maintenant, eh bien il faut reconnaître la vérité, à savoir que Victor Hugo au départ a été, comment dirais-je, ductile et fluide, c'est-à-dire qu'il changeait d'attitude politique selon le vent. Quand il prend le départ en 1822, c'est Louis XVIII, il fait une politique extrêmement conforme, en fait c'est un garçon qui est légitimiste, qui est parfaitement royaliste, mais avec les années ça va changer. Il y a la jeunesse intellectuelle sous Charles X qui commence à être frondeuse. Au point de vue religieux aussi, on s'écarte de la religion et Victor Hugo va passer du côté de ce qu'on appelait les libéraux. Il y a même un moment, c'est très curieux, en 1827-28, où Victor Hugo va être une espèce de bonapartiste libéral. Ça nous paraît aujourd'hui très extraordinaire, mais il y avait des jeunes gens qui étaient enthousiastes de Bonaparte, dans la mesure où Bonaparte avait été anti-royaliste et avait remplacé les rois par sa propre personne. C'est le moment où il va écrire l'Ode à la colonne. Au moment de 1830 et des fameuses Trois Glorieuses, comme on disait, Victor Hugo est du côté des jeunes révolutionnaires, et le nouveau gouvernement qui s'installe avec Louis-Philippe, il le nazarde, il se moque visiblement de lui. Je viens de vous dire, il y a un instant, vous vous rappelez peut-être que c'est le roi Louis-Philippe qui avait interdit une de ses pièces, dont Victor Hugo est dans l'opposition. Mais ça va changer à partir de 1834 à peu près, et dans les circonstances que voici. Le roi Louis-Philippe va faire marier son fils, le duc d'Orléans, fait qu'il est l'héritier du trône, avec une princesse allemande qui s'appelait Hélène de Mecklembourg. Hélène de Mecklembourg est une fille très bien, très intelligente, très française, je veux dire qu'il y a une très profonde culture française. Et lorsque le mariage est célébré, et après le mariage, on va organiser naturellement des réceptions. Des réceptions par fournée. Et il y aura la réception des gens de lettres. Naturellement, vous savez, comme ça se produit toujours dans ces cas-là, on a averti la princesse, la duchesse d'Orléans, des gens qu'elle allait voir, et elle a sans doute préparé pour chacun une phrase de politesse. Victor Hugo s'est fait très beau, il était très fier d'avoir été invité aussi. Sa maîtresse Juliette Drouet le taquine sur la chemise rose qu'il a mis, rose. Et quand il est en présence de Hélène de Mecklembourg, il est ravi de ce que la princesse, la duchesse, lui dit. Elle lui dit, c'est vous, monsieur Victor Hugo, comme je suis heureux de vous voir, j'ai déjà visité votre Notre-Dame. Elle voulait dire qu'elle était déjà allée à Notre-Dame de Paris. Mais comme Victor Hugo, en 1831, avait écrit un roman qui s'appelait Notre-Dame de Paris, la duchesse a la gentillesse de lui dire que quand on entre à Notre-Dame, on est moins chez la Sainte Vierge que chez Victor Hugo. Il trouve ça délicieux, il la regarde, il la trouve du reste charmante comme elle était, et il pense que cette fille est vraiment très douée. Et alors il va se rapprocher à ce moment-là de la cour en se disant aussi, j'ai bien envie d'entrer à l'Académie française, c'est très utile d'avoir la cour derrière moi, le duc et la duchesse d'Orléans sont charmants, et effectivement, le duc et la duchesse d'Orléans vont l'aider sur deux points. En 1841, c'est certainement le duc d'Orléans qui a pesé sur un certain nombre d'académiciens pour qu'on fasse élire Victor Hugo. Il va mourir, très tragiquement, accident de voiture en 1842, le duc d'Orléans. Victor Hugo est triste, sûrement triste, de voir le duc d'Orléans qui meurt. Mais presque tout de suite lui vient une idée consolatrice, à savoir que le vieux roi va mourir, dans un peu de temps sans doute. Il n'y a plus de successeur direct, puisque le duc d'Orléans a disparu. C'est le fils du duc d'Orléans, qui a eu le temps de fabriquer un petit enfant, qui sera roi plus tard, mais il y aura une régence. Cette régence, c'est forcément la régence de la duchesse d'Orléans. Alors Victor Hugo va multiplier les prévenances à l'égard de la duchesse d'Orléans pour se constituer en quelque manière les nuances grises de du prochain règne, qui sera une régence. Et là, on le sait, la duchesse d'Orléans va faire ce qu'il faut pour qu'il soit nommé pair de France. Alors vous voyez, un Victor Hugo pair de France, qui est un bourgeois nanti, établi, tranquille, très gentil avec le vieux roi, qui mise sur l'espoir de la régence. Par conséquent, imaginez tout de suite ce que pourra être pour Victor Hugo le coup terrible du 24 février 1848, quand tout à coup ce roi disparaît, il n'y aura plus de régence, et celui qui justement vient de surgir, c'était quelqu'un qu'il croyait avoir éliminé et battu, c'est Lamartine. Car Lamartine, à partir de 1839, s'était retiré, je vous l'ai dit, de la littérature, mais il était passé à la politique. Il avait écrit cette histoire des Girondins qui avait eu un succès de best-seller prodigieux et en même temps un succès politique. Et maintenant, ce nouveau gouvernement, gouvernement républicain, gouvernement provisoire, était en principe présidé par un vieux bonhomme sans importance, mais en réalité, le directeur, le chef du gouvernement provisoire, c'était Lamartine. Alors vous imaginez bien que c'est un désastre pour Hugo, puisqu'il misait sur une régence. Et je dois vous dire qu'il s'est conduit très courageusement ce 24 février, puisque dans les rues pleines d'agités, qui avaient des fusils, enfin on tirait des coups de feu, Hugo va monter sur les marches de la colonne de Juillet pour haranguer un peuple en révolution et pour dire attention, la République c'est très dangereux, hein, il faut maintenir la régence. Il va se faire, non pas tirer, on ne lui tire pas dessus, mais enfin il va se faire huer, mais vous voyez qu'il a pris une responsabilité. J'entends bien que cette responsabilité allait dans le sens des intérêts, mais enfin il a pris courageusement une position. Je voudrais que nous regardions bien ensemble quel va être son comportement à l'égard de ce gouvernement provisoire de la République. Et je vous dirai trois choses. Il va se conduire sans haine, sans bassesse et avec un grand courage physique. Ben, regardons ça de près. Sans haine, ben, il pourrait haïr Victor, il pourrait haïr Lamartine, il pourrait haïr ses triomphateurs. Eh bien pas du tout. Figurez-vous qu'il va écrire dans les notes que j'ai eu la chance de retrouver et de publier en 1952, ceci. Ce que la République sera pour la France, je le serai pour la République. Autrement dit, il ne s'établit pas dans une position d'hostilité délibérée, au contraire, il dit, je vais regarder. Si cette République que je n'aime pas et qui me fait peur est utile à la France, eh bien je me rallierai. Et donc je peux vous affirmer sans haine, sans bassesse. Haine et bassesse allaient souvent de pair. Vous n'imaginez pas le nombre de kilomètres qu'ont pu faire à plat ventre des gens qui voulaient se faire bien voir du gouvernement. Je pense à un homme comme Montalembert, qui par ailleurs était respectable, qui était pair de France, qui était furieux d'avoir perdu sa pairie, et qui va rôder autour de Lamartine pour flairer autour de lui un peu de popularité. Et lui, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a fait? Figurez-vous que le surlendemain de la Révolution, il reçoit, Place des Vosges, là où il habitait, il y a aujourd'hui le Place Royale, ça s'appelle maintenant Place des Vosges, où il y a le musée Victor Hugo, il voit arriver un émissaire à cheval du gouvernement provisoire qui lui apporte une lettre importante du gouvernement provisoire. Il ouvre, c'était un tout petit mot de Lamartine. Lamartine disait, cher Hugo, il l'aimait bien, il connaissait bien. Nous sommes une équipe dangereuse, hein, on est sur un radeau qui pourrait sombrer à chaque instant. Si vous acceptiez d'entrer au gouvernement, un homme comme vous, académicien, ça serait un poids considérable pour nous, vous nous aideriez beaucoup. Là, vous vous rendez compte, il y a trois jours, Victor Hugo est parmi les décombres, et tout à coup, on lui propose, dans le gouvernement républicain, d'avoir un portefeuille ministériel que le roi lui avait jamais offert. S'il était un ambitieux, il se précipiterait, il dirait, mon Dieu, quelle chance! Savez-vous ce qu'il répond à Lamartine? Eh bien, avec beaucoup de franchise, il lui dit, écoutez, cher Lamartine, non, je ne peux pas faire ça. J'ai soutenu la régence, j'étais pour le roi, je ne suis pas contre la République, je ne suis pas avec la République. Ne me demandez pas de faire une chose qui serait contraire à ma conscience. Chapeau. Alors, vous voyez, premièrement, sans haine, deuxièmement, sans bassesse. Troisièmement, courage physique. Ça, j'ai eu la chance de le trouver, c'est un document que j'ai découvert chez Jean Hugo, l'arrière-petit-fils, qui en 48 et 49 m'avait ouvert tous les trésors de famille. C'était une lettre, probablement négligée parce que la signature n'intéressait personne, une lettre du 26 juin 1848, adressée au président de l'Assemblée nationale par un nommé Cahagne de Sey, C-A-H-A-I-N-G-E de Sey. J'avais cherché dans un dictionnaire des contemporains, qui s'appelait le dictionnaire Vapereau, pour voir si le nom de Cahagne de Sey y était, je l'ai trouvé. C'était le nom d'un vaudevilliste. Mais ce n'est pas en tant que vaudevilliste que ce Cahagne de Sey se permettait d'écrire au président de l'Assemblée nationale. Il disait, j'ai assisté personnellement, ce monsieur Cahagne de Sey disait, j'ai assisté personnellement le 24 juin à un fait que je crois devoir porter à votre connaissance. Alors je vais vous le dire, ce fait, je ne sais pas par cœur, mais je sais bien le contenu de la lettre. Vous savez que Paris, en juin, était dans une insurrection terrible, une insurrection ouvrière, enfin de pauvres gens qui étaient affamés, qui luttaient contre ce gouvernement de la République, à qui ils avaient donné, comme ils disaient, 3 mois de misère, et qui les laissaient dans la misère. Alors, insurrection ouvrière, des barricades un peu partout, et en particulier dans l'est de Paris, et là, justement, où habitait Victor Hugo avec les siens. Alors, Cahagne de Sey dit, j'ai été mobilisé comme garde nationale, enfin, tous les conservateurs, tous les propriétaires étaient gardes nationaux, et on était devant une barricade étroite dans la rue Saint-Louis, on avait lancé un assaut frontal qui avait raté, il y avait nos morts qui étaient là-devant, on n'osait même pas les relever parce que les ouvriers qui étaient bien retranchés derrière les pavés nous bombardaient, enfin, nous fusillaient, on ne pouvait pas, et voilà que vers 2 heures de l'après-midi, nous venons d'arriver d'une rue transversale, alors il décrit un homme qui n'est pas grand, qui avait une redingote noire, un pantalon gris et un gilet gris. Ce gilet était barré de son écharpe tricolore de représentant du peuple. Il avait un chapeau de forme à la main. Il s'avance vers nous. Il dit, je suis Monsieur Victor Hugo, représentant du peuple. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon quartier. Alors il dit, bah, vous voyez, il y a cette barricade là-bas. Ne vous avancez pas, hein, restez dans l'encoignure d'une porte. Passez seulement la tête parce qu'il nous tire dessus tout le temps. Alors Victor Hugo regarde et dit, ah, vous savez, il faut l'enlever, cette barricade. Alors les officiers s'amusent et disent, Monsieur Victor Hugo, mais prenez mon épée, dit un officier, un soldat qui veut faire le flagorneur, amène son flingue, son fusil, et dit à Monsieur Hugo, mais allez-y, monsieur. Victor Hugo, qui n'avait que son chapeau à la main, vous entendez qu'il avait son haut de forme à la main, Cahagne de Sey dit, il nous a renversés. Parce qu'il est sorti de l'encoignure, les balles arrivaient autour de lui, par bonheur il n'a pas été blessé, il avait même des balles dans le pan de l'ardingote, et levant ridiculement son chapeau haut de forme, il a dit, allez-y. Alors les soldats et les gardes nationaux lancé derrière lui l'assaut et on a enlevé la barricade. Ça ne me plaît pas, bien sûr, hein, ça ne me plaît pas qu'il ait enlevé une barricade d'affamés. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il se soit engagé autrement qu'avec un stylographe, avec sa plume d'oie. Il avait pris un risque physique. Ce qui va lui arriver en juin 1848 est très intéressant pour la suite. C'était une insurrection, mais qu'est-ce que ça signifiait, cette insurrection? Bon, on est obligé de rétablir l'ordre. Mais Victor Hugo va noter une phrase qui m'a beaucoup frappé, que j'ai eu la chance de trouver aussi. Régler la question comme on l'a fait, c'est-à-dire en bombardant les quartiers ouvriers, c'est régler la question par l'écrasement du problème. Or, il y a un problème. Si ces gens se sont soulevés, c'est qu'ils sont misérables, c'est qu'ils ne pouvaient pas élever leurs enfants, c'est qu'ils étaient asphyxiés. Alors, il y a vraiment une question qui est la question de la misère, très distincte de la question de la pauvreté. Hugo est convaincu qu'il y aura toujours des riches et des pauvres, mais la misère, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas s'ils mangeront demain, non, c'est plus possible, dit Victor Hugo. Il faut que je fasse une politique telle, il a été élu député, représentant du peuple, de droite du reste, enfin centre-droit, c'est ce problème de la misère qui le hante. Je dois vous dire que c'est pas neuf chez lui. Pensez donc, en 1831, déjà, dans les feuilles d'automne, je crois, oui, il avait fait un petit texte poétique qui s'appelait « Le bal de l'hôtel de ville ». J'entends bien qu'en 31, il était dans l'opposition. Qu'est-ce que c'était, le bal de l'hôtel de ville? Ben, il disait, tous les honnêtes gens, ça veut dire tous les gens riches, ont été invités à un bal de l'hôtel de ville, et ce bal de l'hôtel de ville se passe à côté d'un quartier misérable. Il y a un contraste pénible, désagréable, entre ces gens qui dansent et les gens qui crèvent à côté. Et savez-vous que depuis 1846, il avait commencé un grand roman qu'il appelait Les Misères, Les Misères. Il avait écrit un certain nombre de pages, c'était arrêté à cause de la politique en 48. C'est le livre qui va devenir Les Misérables, mais il faut savoir qu'il l'avait commencé en 1846, que ça s'appelait La Misère, et qu'il voulait appeler l'attention sur la condition des écrasés. Remarquez, hein, il faut dire la vérité, remarquez que s'il n'avait pas continué à écrire ce livre, c'est qu'il se disait, ça pourrait me porter tort, enfin Louis-Philippe l'aime beaucoup, j'ai plutôt une inclination vers le peuple et le roi, Louis-Philippe se méfie du peuple. Bon, il avait arrêté son livre, mais il l'avait commencé. Et maintenant qu'il est représentant du peuple, maintenant qu'il est dans la politique la plus militante, enfin qu'il a participé à la répression de juin, il se pose le problème et se dit, il y a une chose qu'il faut faire. Immédiatement, il faut prendre des mesures pour qu'il n'y ait plus de gens qui crèvent de faim. Je vous répète, il y aura évidemment des inégalités sociales, mais ce qu'on ne peut pas admettre, c'est ce qui se passe dans ces quartiers ouvriers. Alors la rupture de Victor Hugo avec ses amis politiques se situe très précisément à une date qui est celle du 9 juillet 1849. Le 9 juillet 1849, l'Assemblée allait discuter d'un projet d'assistance, pas plus, un projet d'assistance présenté par un très brave type qui s'appelait le vicomte de Melun. Mais vous savez, l'assistance, c'était de même s'occuper de ses pauvres et de ses misérables, et la majorité, qui était composée de grands propriétaires, trouvait que c'était un peu importun. Un homme comme Louis Veuillot, par exemple, Louis Veuillot, qui était le grand pamphlétaire catholique, avait dans son journal L'Univers attaqué à bouillet rouge chez M. de Melun en disant qu'il était atteint du choléra socialiste. Dieu sait que le pauvre Melun en était bien loin. Alors Hugo avait assisté à la discussion, dans les commissions, comme on dit, dans les bureaux, de son parti, et le parti avait décidé, oui, on ne peut pas ne pas voter ce projet d'assistance parce que ça nous compromettrait, mais il est bien entendu qu'après l'avoir voté, on s'arrangera pour qu'il ne soit jamais mis en application. Or, ça avait fichu un coup au cœur à Victor Hugo en disant, enfin, qu'est-ce que c'est des hypocrites, quoi, ils vont voter ce projet avec l'intention de ne pas l'appliquer. Alors, je crois, en effet, qu'il a fait quelque chose qui ne se fait pas, je crois, on m'a dit parlementairement. C'est-à-dire, quand il a commencé à parler à la tribune, il a révélé ce qu'il s'était dit au bureau, dans les bureaux. Il avait dit, c'est avec un sursaut, avec une sorte d'indignation, que j'ai entendu un certain nombre de mes collègues annoncer qu'ils allaient voter ce projet avec l'intention de ne pas l'appliquer, c'est inadmissible. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un grand discours, un peu au poulet, c'est vrai, il veut imiter Lamartine, et il a moins de talent orateur que Lamartine. Alors on se moquera de lui, c'est vrai, il y aura des rires. Et la tradition qui a été lancée par Louis Veuillot et répétée par bien des gens, répétée par Edmond Biret par exemple en 1883, Hugo étant encore vivant, je signale tout de suite que cet Edmond Biret était le secrétaire de M. de Falloux et que Falloux représentait l'opposition d'extrême droite, idée qui va être reprise en 1929 dans un livre pourtant bien fait qui s'appelle Pierre de la Cretelle, la politique Victor Hugo, et la voici, l'idée que l'on m'avait eu dans la tête à moi-même quand j'étais écolier, on le disait. Hugo a été ulcéré de faire un très beau discours, qu'il croyait littérairement excellent, et qui avait été accueilli par de l'hilarité. Alors j'ai vérifié, enfin j'ai regardé, et c'est vrai, il y avait eu hilarité. Mais alors la conclusion de M. Le Veuillot, de Biret et des autres, c'était ceci, Hugo est un homme extrêmement orgueilleux, il n'a pas admis, enfin il avait paru odieux de se voir se moquer, de voir accueilli par des rires ce qu'il disait, et il est allé chercher, comme disait M. Biret, un encens adultère du côté de la gauche et de l'extrême gauche. Le voilà qui a quitté ses amis naturels parce que ses amis naturels s'étaient moqués de lui. Je viens de vous le dire, c'est vrai, puisque j'ai regardé le journal officiel, il y a eu rire. Mais il faut savoir de quoi il s'agit. Et de quoi parlait Victor Hugo? Ben Hugo parlait précisément de la misère. Il disait qu'il y avait des choses totalement inacceptables. Or, vous venez de le voir, c'est un sujet que l'on n'aime pas à l'Assemblée nationale et que l'immense majorité des conservateurs et grands propriétaires qui sont là ne veulent pas qu'on leur en parle. Alors, comme Victor Hugo, de temps en temps, en effet, avait probablement des images abusives et une rhétorique excessive, on profitait de ce que Victor Hugo était vulnérable du point de vue littéraire pour se moquer de lui afin que l'on n'écoutât pas ce qu'il disait, parce que c'était le sujet tabou. Alors, à partir de cette date, c'est vrai, Victor Hugo va cesser de voter avec la droite et va voter avec la gauche. Mais alors, j'appelle votre attention sur deux points très importants. Hugo rejoint l'idée républicaine au moment où elle est par terre. Vous savez qu'on peut dire qu'avec Cavaignac et au lendemain des journées de juin, la République était pour ainsi dire mourante. Eh bien, voyez-vous, ce goût des causes perdues, je ne le lui connaissais pas encore. Il est tout à fait évident que Victor Hugo, jusqu'à présent, avait suivi ses intérêts, avait évolué en politique selon son avantage, et que son avantage en 1849 n'était certainement pas d'aller du côté des Républicains qui étaient des gens vaincus. Deuxième remarque, ça se passe en 49, il mourra en 85, ça fait qu'il a quelque chose comme 37 ans à vivre. Ce qu'il est devenu ce jour-là, il le restera contre vents et marées jusqu'à sa mort. Je dois vous dire aussi qu'on lui jettera à la figure, un peu plus tard, le fait qu'il avait soutenu la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République. Vous savez sans doute que Louis-Napoléon avait surgi au cours de l'année 1848, le public ne le connaissait pas, mais enfin il s'appelait Bonaparte, c'était un nom rassurant, et il avait eu tellement, un si grand nombre de voix, que pour l'élection présidentielle du 10 décembre 1848, où il y avait Cavaignac qui se présentait, et le pauvre Lamartine qui aura un nombre de voix grotesque, lui, Napoléon Bonaparte, s'était dit « j'ai une chance ». Et en effet, il sera élu. Et Victor Hugo, dans son journal, lui n'écrivait pas directement. Ses fils écrivaient là, et ses deux amis, Vacry et un autre. Victor Hugo dirigeait l'événement, et bien c'est vrai que l'événement va soutenir la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais j'ai été regarder chaque article. Lui, Napoléon Bonaparte, est un malin. Il est allé voir tous les chefs de parti, et à chacun de ces chefs de parti, il était un langage particulier, un langage propre à leur faire plaisir. Quand il allait voir des gens de gauche, il disait « mais je suis, moi, du côté des misérables, vous allez voir ce que je vais faire ». Quand il allait voir des gens de droite, il disait « mais vous savez bien que je suis, à cause de mon nom même, un conservateur, pour être tranquille ». Et quand il est allé voir, car il est allé voir Victor Hugo qui comptait, il lui a dit « je sais, monsieur Victor Hugo, que le problème de la misère est pour vous un problème important, j'ai lu ce que vous avez fait. N'oubliez pas que quand j'étais captif, il était au château de Ham, vous savez, Louis Bonaparte avait été emprisonné par Bonaparte. J'ai fait un livre que vous deviez connaître, enfin une opuscule qui s'appelait « L'extinction du paupérisme ». On peut être sûr qu'avec moi, ce problème des pauvres est un problème qui m'importe. Et Victor Hugo avait marché. Mais je vous répète, lisant les articles de l'événement qui soutient la candidature de lui à Napoléon Bonaparte, vous vous apercevez tout de suite que c'est une adhésion conditionnelle. Ce n'est pas du tout une adhésion à la personne, ce n'est pas Louis-Napoléon Bonaparte que l'on pousse au pouvoir, c'est un homme qui a décidé de vaincre ce que l'on appelait le paupérisme. Et Victor Hugo s'apercevra assez vite que celui, Napoléon Bonaparte, devenu président de la République, se moque bien des pauvres, ne fait rien du tout, s'arrange au contraire pour être soutenu par la droite, et il va passer contre lui. Si bien que vous savez bien les événements terminaux, c'est-à-dire le 2 décembre 1851. J'appelle votre attention sur ce qui s'est réellement produit le 2 décembre 1851. Premièrement, ce président de la République avait juré le 20 décembre, lorsqu'il est intronisé, si je puis dire, il avait juré devant les hommes et devant Dieu, comme on disait à ce moment-là, d'être le gardien de la Constitution républicaine. Et qu'est-ce qu'il faisait le 2 décembre 1851? Eh bien, ce gardien de la Constitution républicaine l'étranglait et mettait la République plus bas que terre. Deuxièmement, comme il avait espéré qu'il y ait une espèce de soulèvement populaire en sa faveur et qu'il s'apercevait le 3 décembre que ça ne marche guère, que les gens ne sont pas enthousiastes de lui, vous savez bien ce qu'il va faire ou laisser faire le 3 décembre dans l'après-midi. Il va laisser les troupes qui occupent les grands boulevards devant des curieux qui sont là plutôt mornes, qui ne sont ni pour ni contre. Il va laisser ses troupes, sur le commandement, je crois, de Morny, tirer d'une manière indiscriminée sur la foule. Il y a ces bataillons qui sont au centre des boulevards et les bataillons, brusquement, au lieu de regarder devant eux, regardent de côté et tirent sur les gens. C'est-à-dire qu'il, à cet enthousiasme qu'il manquait, il va substituer l'épouvante. Et lui, Napoléon Bonaparte, va s'établir par le sang et par l'épouvante. Eh bien, savez-vous que Victor Hugo, ce jour-là, a vraiment risqué sa vie, sa personne. On nous dira, il n'y a eu qu'un seul député qui s'appelait Baudin, qui est tué sur une barricade et qui dira, voilà comment on meurt pour 25 francs, car on reprochait aux députés de toucher 25 francs par jour. Hugo n'aura pas l'occasion, je trouve, qu'il n'a pas l'occasion de monter sur une barricade, mais il a offert sa tête. Comment donc? Il a assigné tout seul, Victor Hugo, représentant du peuple, une affiche qui a été apposée dans Paris par les soins des républicains. Et cette affiche disait, j'appelle les républicains, j'appelle les parisiens à l'insurrection, puisque celui qui est sorti de la légalité, c'est le président de la République. Et vous, en faisant une insurrection, vous êtes dans la légalité, signé Victor Hugo, représentant du peuple. C'était se désigner à l'arrestation, et nous saurons beaucoup plus tard par le préfet de police, qui s'appelle, je crois, Maupas, qu'on avait donné, on avait annoncé aux gendarmes et aux soldats que si on pouvait descendre et tuer Victor Hugo, ils auraient 25 000 francs de récompense, et on dira, ah, on ne savait pas que c'était Monsieur Victor Hugo. Vous voyez, Victor Hugo a pris les risques suprêmes. Bon, il va être envoyé en exil, comme vous savez, il restera en exil volontairement à partir de 1859, puisqu'en 59, Napoléon III va faire une amnistie à tous les exilés politiques. Victor Hugo dit amnistie, quoi. Ça veut dire qu'on veut bien, me pardonner, le coupable veut bien me pardonner l'authenticité et la loyauté de ma conduite. Je ne rentrerai que quand la République rentrera. Et il va rentrer, comme vous le savez, en 1870. Il va être tout de suite confronté avec le problème du siège. Bon, il est là, dans Paris assiégé. Et en 1871, c'est-à-dire au moment de la Commune, il n'est plus là, son fils vient de mourir, ses petits-enfants habitaient à Bruxelles, si bien que le 18 mars, le jour de l'explosion de la Commune, il va à Bruxelles, non pas pour s'enfuir, mais pour être auprès de ses petits-enfants, puisque le papa vient de mourir. Il voit la Commune, il n'adhère pas à la Commune. Il va écrire un mot intéressant. La Commune est une bonne chose mal faite, dit-il. Et il y a des choses dans les actes de la Commune qui lui déplaisent. Comme en particulier quand la Commune a décidé d'abattre la colonne Vendôme et lui est resté, à cause de son père, le général, resté assez bonapartiste, enfin assez dans la légende du Gaulienne, et il dit non, les communards ont tort de détruire un monument qui est de la gloire de la France. Mais, dès que la Commune a été écrasée, et quand il a assisté à ce que je dois bien appeler la terreur blanche des nantis et la vengeance des possédants, alors là il est écœuré. Hugo va parler de l'orgie des meurtres. Et c'est vrai, vous savez, j'ai étudié cette question de la Commune, j'ai fait un bouquin là-dessus. C'est épouvantable de penser ce qui s'est produit après qu'on a reconquis Paris dans ce qu'on a appelé la semaine sanglante. Bon, ces malheureux gens sont écrasés, mais il va y avoir des persécutions, il va y avoir des fusillades, tout à la fin encore du mois de mai et même pendant le mois de juin. On va continuer à assassiner des tas de gens. Et Victor Hugo va faire les plus grandes protestations, en prose et en vers. Il va écrire la fin de l'année terrible c'était des vers qu'il avait écrits pendant la guerre, maintenant ce sont des vers qu'il va écrire sur ce qu'il passe aux représailles après la Commune, qui va indigner des tas de gens, et en particulier Madame Sand, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui était extrêmement hostile à la Commune, va dire le vieux est devenu complètement gâteux. Il va rentrer à Paris, deux fois il se présente aux élections, et les deux fois, comme il est un peu trop compromis à gauche, il est battu. Mais en 1876, si je ne me trompe pas, il est élu sénateur, et même à ce moment-là s'appelait sénateur inamovible. Il n'a plus beaucoup de temps à vivre, il aura cet accident mental dont je lui ai parlé, enfin cérébral. En 1878, il ne parlera en somme que trois fois au Sénat. Et les trois fois il parlera au Sénat, c'est en faveur des communards, en demandant l'amnistie pour les communards. Vous voyez donc que cette vie politique de Victor Hugo est une vie sur laquelle il faut dire la vérité. Jusqu'en 1949, un homme qui était très soumis à l'influence de son avantage personnel et qui à partir de 1849 a suivi ce qu'il estimait être le fond de sa conscience. Mais j'arrive à ce qui m'intéresse évidemment le plus, vous en doutez bien, la vie intime de Victor Hugo et sa pensée philosophique et religieuse. Vous voyez deux fois, du point de vue littéraire et du point de vue politique, on a vu cette carrière pour ainsi dire de l'extérieur. Bazin l'a regardé. Une troisième fois, mais cette fois avec un éclairage nouveau. Alors repartons de son enfance. Quand on parle de l'enfance Victor Hugo, presque toujours un certain nom propre nous vient à l'esprit, c'est Feuillantine, le jardin des Feuillantines, où il vivait avec ses deux frères, il avait deux frères comme vous savez, et sa mère. Il en avait gardé un souvenir éblouissant, mais figurez-vous que de cet Éden même, la douleur, la souffrance n'était pas absente. Quoi donc ? Ben, il s'agit du dissentiment entre ses parents. Il y avait le chef de bataillon, puis colonel, puis général Hugo, qui ne s'entendait pas, c'est pas exactement le mot, qui était déçu du comportement de sa femme. Lorsque le petit Victor Hugo est venu au monde, à Besançon en 1902, Madame Hugo, Léopold Sigisbert Hugo, femme du chef de bataillon Hugo, était déjà la maîtresse du colonel du régiment, qui s'appelait Lahori. Le père Hugo, enfin le papa Hugo, a des difficultés avec son colonel et il demande à sa femme d'intervenir auprès de Lahori, c'est un ami de la famille, Lahori, hein. Et comme c'est un colonel, il pourra peut-être le protéger. Il était à ce moment-là à Marseille, Lahori. Alors, le chef de bataillon Hugo délègue sa femme à Marseille, elle emporte dans les bras son tout petit Victor Hugo, qui était un bébé, elle voit Lahori, elle le voit tellement bien qu'elle reste auprès de lui. Elle ne revient pas. Et le général Hugo, enfin, qui n'était pas encore général, était très attaché, je dirais même aussi physiquement, à sa femme. Il la supplie de revenir, elle ne reviendra pas. Il faudra tout de même obligatoirement qu'elle le rejoigne, les années ont passé, nous sommes en 1807-1808, il est devenu général, le nouveau roi d'Espagne qui s'appelle Joseph Bonaparte l'a amené à sa cour, et comme nous sommes, c'est une cour catholique à Madrid, Joseph estime qu'il doit y avoir là, non pas la maîtresse d'un monsieur, mais sa femme. Alors, il exige, Joseph, du père Hugo, du général Hugo, qu'il fasse venir sa femme. Sa femme est fort irritée, elle n'a aucune envie, elle voudrait rester avec Lahori, et il amène en même temps celle qui remplaçait sa femme, qui était une Corse, Catherine Thomas, qu'il avait baptisée comtesse de Salcano, parce que c'était tout de même mieux auprès de la cour du Joseph. Alors vous voyez les trois enfants Hugo et Madame Hugo qui est présentée un soir à la cour de Madrid, comme il le faut bien, mais tout de suite, le père, le papa Hugo, les expédie à l'extérieur pour pouvoir être tranquille avec sa maîtresse, et l'enfant Victor Hugo, qui est tout petit, doit s'apercevoir que les choses ne marchent guère entre son père et sa mère. Mais il va assister, en 1814, au moment de la Restauration, à des scènes affreuses, à cause de la séparation de corps et de biens, qui va intervenir officiellement entre le père et la mère, à des scènes extrêmement pénibles, où ce gamin, quoi, il a 12 ans, entend son père et sa mère qui se disent des choses affreuses. Il comprend à ce moment-là des choses qu'il n'avait pas encore comprises. Il n'avait pas vu en particulier ce qui s'était passé en 1812, il n'avait que 10 ans. Madame Hugo, la femme de Hugo, mais qui était la maîtresse de Lahori, avait vu son amant compromis dans la fameuse histoire de la conspiration du général Mallet. Vous savez, une seule conspiration militaire qu'il y a eu contre Napoléon. Et Napoléon avait été intraitable, ça se comprend, il avait fait fuir tous les gens. Eh bien, Madame Hugo avait eu le courage de suivre le tombeau dans lequel il y avait les corps des fusillés, dont le corps de son amant, et se tordant les pieds, elle marchait derrière ce tombeau d'où il coulait du sang. Elle l'avait fait, Madame Hugo. Bon. Mais en 1814, il y a donc cette rupture, et Victor Hugo est malheureux, je crois que c'est une blessure qui ne se cicatrisera jamais, de voir que ses parents peuvent se dire. Quant à lui, il est bien déterminé, dès qu'il a 16 ans, 17 ans, à ne pas se marier dans les conditions où son père et sa mère s'étaient mariés. Vous savez peut-être qu'à ce moment-là, le chef de bataillon Hugo faisait de la répression en Vendée. Il avait rencontré une jeune fille qui était charmante, Sophie Trébuchet, c'était son nom, Trébuchet. Et il avait demandé en mariage parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'avoir que de l'épouser. Enfin, ça a été bâclé, quoi. Et puis ça avait mal tourné. Alors lui, Hugo, veut se marier dans toute autre condition. Il connaît depuis longtemps une petite fille charmante qui avait l'air d'une Espagnole alors qu'elle était purement française, qui s'appelait Adèle Fouché, et qui venait jouer parce que sa maison était à côté dans le jardin des Feuillantines. Il l'aime, et il l'aime tellement qu'il a décidé, lui qui avait, comme il dit, des sens en amadou, c'est-à-dire facilement inflammable, il décide, vous l'écoutez bien, de se garder strictement vierge, à l'égard de cette fille, puisqu'il la prendra vierge et qu'il va être vierge lui aussi. C'est un garçon qui fait un effort considérable sur lui-même, qui respecte cette fille et qui ne la prendra que quand elle sera sa femme. Il part, comment dirais-je, bon jeu, bon argent, quoi, dans ce mariage. Il y part de tout son cœur. Ben, figurez-vous que le destin intime de Victor Hugo sera la répétition, pour ainsi dire, du destin intime de son père. Parce que lui, comme son père, verra sa femme, qu'il aime encore ardemment, s'écarter de lui. Lui aussi, comme son père, il aura cherché une tendresse et une joie physique auprès d'une autre femme. Et lui aussi, comme son père, il gardera longtemps une vieille maîtresse qui survivra à l'épouse. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourquoi ça n'a pas marché, ce ménage Victor Hugo, alors qu'il était si gentil, du moins au départ? Dans les feuilles d'automne, vous voyez à plusieurs reprises qu'il parle de larmes, que sa conduite aurait coûté à sa femme. Est-ce que c'était des infidélités? C'est peut-être possible. Parce que vers 1826, Alfred de Vigny, note personnellement, tiens, il change beaucoup, Hugo. Jusqu'à présent, il était très puritain, très rigoriste, et maintenant, il fait des plaisanteries grivoises. Il est très lié avec Louis Boulanger. Louis Boulanger est un rapin, il vit dans un milieu de rapins. C'est possible que Madame Hugo soit aperçue que son mari n'était pas sérieux. Je suis sûr aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ce ménage et qui tient au fait que Victor Hugo était très ambitieux, comme vous l'avez vu. Et vous savez, l'ambition, ça demande des relations. Enfin, pour parvenir, il faut connaître beaucoup de gens. Tiens, ça me fait penser à Flaubert qui disait « La célébrité s'obtient à force de courses ». Eh ben, je crois que Victor Hugo faisait beaucoup de courses, c'est-à-dire qu'il sortait tous les soirs pour voir des gens, voir des fleurs, enfin. Et sa femme devait lui dire, enfin, je suppose, qu'elle lui disait « Mais écoute, j'aimerais bien que tu restes un peu le soir au foyer, il y a moi, puis il y a les enfants ». Je pense que Victor Hugo négligeait, parce que ce qui l'intéressait, c'était surtout de réussir. Toujours est-il que sa femme était un peu déçue de lui, mais que s'il n'était pas intervenu quelqu'un, le ménage serait peut-être pas brisé. Qui? Eh ben, vous le savez bien, c'est Sainte-Beuve. C'est déconcertant de penser que c'est Sainte-Beuve qui a été préférée à Victor Hugo par sa femme. Victor Hugo était beau, Sainte-Beuve n'était pas beau. Le jeune Sainte-Beuve avait déjà beaucoup moins de cheveux, ce qui du reste a été roux, il avait un petit ventre, tandis que Victor Hugo était épatant. Eh bien, Madame Victor Hugo, enfin secret du cœur féminin, va préférer Sainte-Beuve. Sainte-Beuve était plus enveloppant, il était en apparence très respectueux, et la pauvre Madame Victor Hugo est très émue. Je suis sûr, vous m'entendez, je suis sûr que Victor Hugo n'a jamais su que sa femme était la maîtresse de Sainte-Beuve. Mais elle savait simplement, et Sainte-Beuve l'avait du reste un jour avoué, baissant les yeux. Oui, nous sommes très tendrement liés, enfin, ta femme ou votre femme a en effet un sentiment pour moi, mais Dieu sait si je la respecte. La preuve, je crois, pour vous apporter la preuve de l'innocence de Victor Hugo sur la conduite de sa femme, c'est ce qu'il va lui écrire en 1835. C'est un poème avec un titre latin, vous allez voir, « Date Lilia ». C'est un impératif, hein, « Donner délice ». Et il dit, « Toi qui ignore les sens », dit-il à sa femme. Parce qu'elle avait été très dure avec lui, et lui avait dit un jour, tu sais, nous ne nous entendons pas, mais il y a aussi une question sexuelle, enfin, je n'ai jamais été heureuse entre tes bras, c'est une chose terrible qu'une femme lui avait dit. Alors toi, qu'aucun sens, que les sens n'émeuvent pas, toi, je te donne une brassée de lisse, parce que moi, je suis coupable. À ce moment-là, depuis 18 mois, séparé de sa femme physiquement, il avait pris cette petite Juliette Drouet, qui va devenir sa maîtresse, et il n'avait pas caché à sa femme, elle le savait, elle l'en bénissait, elle disait, tu es tranquille, tu t'amuses, c'est très bien. Alors il donnait une énorme brassée de fleurs blanches à cette femme qui, elle, était irréprochable, alors que lui était coupable. Attention. Le Victor Hugo 1831, 32, 33, là, quand il n'a plus sa femme et qu'il va prendre Juliette Drouet, est un homme qui se juge déjà vieux, figurez-vous, juste en dernière preuve, ayant des combres. Preuve. Vous devez réfléchir au sens réel, enfin au sens de ces titres, dont je vous ai parlé tout à l'heure à toute vitesse en vous indiquant que c'était de la poésie lyrique. Feuilles d'automne, chant du crépuscule. Quel âge? 29 ans pour les chants de feuilles d'automne et chant du crépuscule, 33 ans. Voilà un garçon, 29 ans, 33 ans, à l'âge où je suis de la vie, moi je trouve que c'est l'horreur, hein. Eh bien lui, il s'estime déjà au crépuscule. Parmi les premiers vers qu'il va envoyer à Juliette Drouet, il lui dit ceci, « Ton amour est tombé sur mon âme épuisée et comme morte ». Vous entendez? Il écrit ça en 33 à Juliette Drouet. Et dans une lettre à sa femme en 1835, il a donc 33 ans, il lui dit, « Ma pauvre petite Adèle, ah oui, je l'ai appelée Sophie, non, elle s'appelait Adèle. « Ma pauvre petite Adèle, tu ne sais pas combien je suis déjà en décombre ». Victor Hugo est un homme ravagé par ce qui lui arrive intimement. Quand on pense à Victor Hugo, il faut toujours vous dire qu'il a, vers 31, 32, 33 ans, subi un écroulement intérieur. Hein. Il avait tout misé sur sa femme. Il continuait à la désirer violemment, physiquement. Elle ne voulait plus de lui. C'est un homme un peu éperdu. Mais il a au moins les enfants. Les quatre enfants. On n'y pense jamais. Vous savez, c'est un père de famille nombreuse, de garçons, de filles. Et avec une espèce de respect humain masculin, il va parler dans une lettre publiquement « Ma populace de marmots », dit-il. Sa populace de marmots, eh ben, c'est le groupe sacré des siens. Et il avait écrit quelque chose de très beau qui était dans les feuilles d'automne, « Je ne veux habiter la cité des vivants que dans une maison qu'une rumeur d'enfant fasse toujours vivante et folle. Or, il se trouve que le sort, ou Dieu, tout ce que vous voudrez, va frapper étrangement, sinistrement, ce foyer de Victor Hugo. Regardez les dates. En 1823, le premier fils, qui s'appelait comme le grand-père, Sigisbert, va mourir au bout de quelques mois. C'est un petit enfant qui était mal né, qui survivait à peine. Ça me fait penser encore là à une phrase de Claudel, décidément j'aime beaucoup le citer, qui parlait d'un petit enfant qui était du reste son petit frère à Claudel, qui était mort très rapidement. Il est passé, disait Claudel, il est passé sur le monde comme l'ombre d'une abeille. Ben c'est tout, en effet, le premier enfant de Victor Hugo est passé comme l'ombre d'une abeille, 1823. Sautons les années, vous arrivez à 1843. Victor Hugo est père de famille, c'est un monsieur considérable. Il a une grande fille qui s'appelle Léopoldine, vous savez Léopoldine, qui est déjà mariée à 19 ans et qui est déjà enceinte et qui est en train de se promener avec son mari en barque à Villequier, à l'embouchure de la Seine. Elle était sur un bateau qui était mal fabriqué, la voile était trop haute, enfin il n'y avait pas une cale suffisante, si bien qu'il y a un coup de vent qui renverse la voile et la voile colle sur l'eau, elle ne peut plus se redresser. Elle est tombée, Léopoldine, enceinte, hein. Alors son mari va crier à plonger, il a plongé 6 fois et la 6e fois il n'est pas remonté. Elle se noie donc. Tiens, j'ai envie de vous raconter les conditions dans lesquelles Victor Hugo a appris cette tragédie. Il n'y avait pas de télégramme à ce moment-là. Hein. Nous sommes en le 4 septembre 1843. Il est d'une fois de plus, comme il faisait chaque année, en voyage avec sa maîtresse et avec Juliette. Comme il avait une difficulté dans la gorge, il est allé soigner à Cauterets. Il revenait lentement par petites étapes. Il arrive à Rochefort. Nous sommes le 9 septembre et sa fille est morte le 4. Il ne le sait pas. Le 9 septembre, il est arrivé trop tôt pour la diligence. Alors, attendant l'heure de la diligence, ils vont dans un café, dans un bistrot. Victor Hugo se met dans un coin, sous un escalier tournant, un escalier à vis qui montait au premier étage. Pour se désennuyer, il demande des s'il y a quelque chose, quoi. Alors, elle prend le Charivari, qui était le canard enchaîné de l'époque, et lui demande le journal des débats, qui était là, le journal des débats de la veille ou de l'avant-veille. Et c'est là, dans ce fond de bistrot, que ouvrant le journal des débats pour se désennuyer, Hugo lit ceci, on apprend la mort accidentelle de Léopoldine Vacry, fille de l'académicien et poète Victor Hugo. Alors, c'est pas la peine que je fasse du pathétique, comme vous vous rendez compte de ce que c'est pour lui d'apprendre comme ça dans ce bistrot que sa fille est morte. 43. Alors, vous sentez encore 20 ans, hein? 23, 43, 63. En 63, c'est une tout à fait autre chose qui lui arrive et qui est, si j'ose dire, presque pire. Il avait une grande fille, hein, qui était née en juillet 1830, et justement, c'est à la suite de la naissance de cette fille que sa femme lui avait dit, hein, plus de contact, jamais. Bon. Alors, elle est grande, en 1863, elle a 43 ans, hein, non, 33 ans. Et déjà, Victor Hugo s'inquiétait un peu de la santé psychique de sa fille, qui avait une typhoïde qui s'en était mal remise. Et voilà qu'en 1863, il lui demande l'argent pour aller soi-disant rejoindre sa mère qui était à Paris, il lui donne l'argent nécessaire, mais il ne s'aperçoit pas, parce qu'il a eu l'imprudence de ne pas la conduire, je pense, au bateau, qu'elle ne prend pas le bateau pour Cherbourg, mais qu'elle prend un bateau pour Southampton. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, de Southampton, elle va prendre un autre bateau avec l'argent que son père lui a donné, ou ce qu'elle avait économisé, pour aller jusqu'au Canada, jusqu'à Halifax, où elle poursuit quelqu'un dont elle a été la maîtresse, qui est un lieutenant de l'armée britannique qui s'appelle Albert Pinson. Si vous avez vu le beau film qui s'appelle Adèle H, qui est un film presque authentiquement historique, vous avez vu le destin de cette fille. Ça sera affreux, hein. Elle va perdre la raison, elle s'impose à ce Pinson qui ne veut pas d'elle, elle le suit malgré lui de garnison en garnison, elle finira par aller à la Barbade où il était, où il a complètement perdu la raison, et ce sera le consul de France qui va la rapatrier. Et quand on va la rapatrier, elle est folle. On sera obligé de la mettre tout de suite dans ce qu'on appelait à ce moment-là une maison de fous, carrément. Bon, mais nous sommes en 63, sa fille a disparu, et il apprend qu'elle est partie là-bas. En 1865, voilà son fils Charles qui enfin se marie, il est désespéré de voir que ses enfants ne se mariaient pas. Et en 67, il y a un petit enfant qui naît, Victor Hugo est ravi, son petit-fils, il vient le voir à Bruxelles, il pousse lui-même la voiture dans les rues de Bruxelles, la petite voiture de son petit-fils, et au bout de 4 jours, cet enfant est emporté par une méningite. C'est cette même année 1867 où sa femme va disparaître. Il y a quelque chose d'assez beau à vous dire au sujet de sa femme. Sa femme avait repris un certain contact, et lui avait fait un coup, hein. Le coup, c'était de le quitter en exil. Elle ne pouvait pas supporter Guernsey, c'est une femme très mondaine, et à Guernsey, elle s'embêtait. Alors, elle avait décidé de vivre, non pas à Paris tout de même, hein, parce que ça aurait été démentir son mari, mais à Bruxelles. Si bien qu'il ne la voyait que 2 mois par an. Il était assez triste de ce qu'elle lui avait fait en le plaquant comme ça, mais enfin, il ne lui en voulait pas trop. Et la vieille Madame Victor Hugo, qui maigrissait beaucoup, qui avait peut-être un cancer, s'était mise à lire les livres de son mari, quoi. Elle avait pas lu, non, elle n'avait jamais lu Misérable. Elle lui écrit dans une lettre, c'est malheureux de mourir alors que l'intelligence me vient, dit-elle. Savez-vous qu'à Chauxfontaine, Victor Hugo était venu avec sa toute vieille maîtresse, avec Juliette, à côté de sa femme, et que c'était Juliette, la maîtresse, qui faisait des lectures des Misérables à Madame Victor Hugo. La voilà qui meurt, elle a eu une attaque, Victor Hugo est resté lui tenant la tête dans le coude pour l'aider à respirer, elle était morte positivement entre ses bras, et Madame Hugo avait dit « je voudrais être enterrée à Villequier », où là où était sa fille. Hugo ne peut pas rentrer en France, puisqu'il a décidé qu'il ne rentrerait pas. Alors tout ce qu'il peut faire, c'est d'accompagner le corps de sa femme jusqu'à la gare frontière, qui était, je crois, Quiévrain. Et là, Rochefort, le polémiste Rochefort, nous a raconté un détail que j'ai envie de vous dire. Donc Hugo est descendu du train, il a demandé au chef de train, au chef de gare, la permission de rouvrir le fourgon pour aller dire au revoir à sa femme. La bière, le cercueil est établi là sur un tréteau. Hugo s'est tenu debout devant le cercueil, ne disant rien, puis il a descendu. On a refermé le fourgon. Et Rochefort dit, tout à coup, le voilà Victor Hugo qui se met à marcher très vite dans la direction du chef de gare. Il dit, est-ce qu'on peut rouvrir le fourgon? Le chef de gare dit, mais le train va partir. Enfin, très vite, hein, monsieur Victor Hugo. Alors on rouvre le fourgon. Et Rochefort dit, nous et les deux fils, on se tenait évidemment à l'écart. Et on a vu le père Hugo, cette fois, qui s'est mis à genoux, hein, qui s'est mis à genoux devant la bière, et qui a posé ses lèvres sur le bois, disant à travers le cercueil, je ne sais quoi, à sa femme. Puis le train est parti. Bon, 67. Le 13 mars 1871, c'est son fils aîné, Charles, qui est foudroyé dans un fiacre. Figurez-vous que Hugo avait organisé un banquet politique, là, dans une grande rue de Bordeaux. On attendait le fils, le temps passait, 7h30, le fils n'était pas là. Les gens disent, ben, mettons-nous à table, Victor Hugo. Non, c'est Hugo qui dit, mettons-nous à table, et les gens disent, enfin, on peut attendre un instant. Et c'est qui entre dans le bistrot, enfin, dans le restaurant, c'est un agent, qui dit, monsieur Hugo est là, oui, oui, venez. Alors il suit cet agent sans savoir, et il y a un fiacre dont les vitres sont baissées, dont les stores sont baissés. L'agent ouvre et il y a le fils Hugo qui a 45 ans à ce moment-là, hein, et qui est là sur la moleskine du fiacre, et du sang qui lui coule du nez et des oreilles. Il était mort, quoi. Bon, premier fils qui disparaît, voilà qu'en décembre 73, son deuxième fils, s'appelait François Victor, disparaît à son tour à la suite d'une agonie de tuberculose rénale qui avait duré 6 mois. Qu'est-ce qui reste à Victor Hugo? Adèle. Adèle la folle. Il va la voir, et dans ses carnets que j'ai retrouvés et que j'ai publiés, il y a ceci, je n'ose plus aller la voir. Nous voir nous fait du mal à l'un et à l'autre. Ma pauvre petite Adèle, alors qu'elle est plus jeune, hein, plus morte que les morts, hélas, écrit-il. Vous savez, quand il avait écrit, il avait 29-30 ans, quand il avait écrit Notre-Dame de Paris, il y avait à la fin une scène que vous connaissez tous, un Quasimodo, qui est là en haut, qui a jeté Claude Frollo par-dessus la balustrade. Et Esmeralda est morte en bas, alors Claude Frollo s'accoude, regarde, et Victor Hugo écrit... Alors un soupir souleva sa profonde poitrine. Oh, dit-il, tout ce que j'ai aimé. Eh bien, quand Victor Hugo écrivait ça pour faire un effet littéraire, il ne se doutait pas qu'il aurait à prononcer ces mots pour son propre compte. Tout ce que j'ai aimé, tout était parti. Ah, ben, vous me direz, il y a les petits-fils, tout de même, il a écrit l'art d'être grand-père. Attention, les petits-fils, ça reste pas longtemps, je le sais. Ça reste pas longtemps les petits-enfants. Ça devient rapidement des grands-enfants. Je vois une photographie de Victor Hugo en 1883, il va mourir en 85, où il y a la petite Jeanne, qui est déjà une jolie petite fille, il y a Georges, qui est un garçon avec un petit chapeau qu'il met sur le côté, enfin évidemment le vieux ne compte plus à ce moment-là. D'autre part, dans l'avenue des Lots où il habitait, sa belle-fille, qui avait épousé Charles et qui était veuve, s'était remariée. Et Victor Hugo n'avait jamais accepté ce remariage. C'est pas bien de sa part, hein. Il avait le droit d'avoir un mari, quoi. Enfin, quand on s'est appelé Hugo, on s'appelle pas Locroix. Il a été la femme du député de Paris, Locroix. Et il se passait, m'a raconté Jean, qu'il tenait ça de son père, de Georges Hugo, il se passait dans cette maison de la rue des Lots des choses très pénibles. Locroix était, paraît-il, très peu respectueux à l'égard du vieux, qui avait quelques raisons pour ne pas se faire respecter, je le sais. Bon. Alors Locroix, il lui arrivait de parler très violemment à Hugo, et même une fois, paraît-il, elle levait la main sur lui comme pour le frapper. Il ne l'a pas frappé, mais il faisait semblant. Alors le pauvre Hugo, le dos baissé, remontait dans sa chambre pour s'enfermer et pour pleurer. À la suite de la mort de son second fils, il avait écrit un texte que vous trouverez dans la deuxième série de la Légende des siècles. Ça s'appelait « Les enterrements civils ». Car aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font enterrer sans prêtre, mais à ce moment-là, ça ne se faisait pas. Et Charles, et François Victor, et Victor Hugo lui-même avaient décidé que leur enterrement serait civil, sans prêtre. Alors il avait écrit ce jour-là, oui, c'est entendu, moi non plus, je ne veux pas de prêtre. Et cependant, quand je mourrai, je voudrais que quelqu'un prie pour moi. Oui, je trouverais bon que pour moi, loin du bruit, quelqu'un s'adressât pour moi, je ne sais plus exactement, à la nuit. Ma vie ayant été dure et funèbre, en somme. Et bien, ce que je viens de vous dire, et j'y ajouterai, si vous voulez, les phrases qu'il avait écrites en 1883, dans son testament, les trois phrases de son testament étaient les suivantes. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Alors j'arrive à la dernière partie de cet exposé. Je vais vous dire comment était l'attitude religieuse de Victor Hugo. Je crois pouvoir vous dire qu'au cours du XIXe siècle, je ne vois personne dans la littérature française, Rimbaud mis à part, qui ait été à ce point obsédé par le problème religieux. Je chercherai la preuve jusque dans ses comportements sexuels de Victor Hugo, sur lesquels on a écrit tant de choses et qui étaient évidemment plus nobles. Hugo est quelqu'un, dès que sa citadelle intérieure a été détruite par le départ de sa femme, qui se laisse aller à ce qu'il appelait lui-même à tous les vents de l'ombre. Il prend Juliette Drouet, mais vous savez, tout de suite, il va tromper Juliette Drouet. Il était très beau, il était très connu, il avait toutes sortes de propositions féminines, il les acceptait toutes. Il faut que vous sachiez que ce Victor Hugo, qui courait les bonnes, qui courait les prostituées, qui avait des tas d'amis, Victor Hugo est un homme qui est en désaccord avec lui-même. C'est un homme qui dit, oui, je me conduis comme ça, je l'avoue, mais ne faites pas comme moi. Et savez-vous, ça m'a étonné quand je m'en suis aperçu, que tous les personnages masculins, tous les héros de ces grands romans, ben je les énumère, hein, il y a Jean Valjean pour Les Misérables, il y a Simourdin pour 93, il y a Gilliatt pour Les Travailleurs de la Mer, il y a Gwynplaine pour L'Homme qui rit, tous, c'est pas croyable, mais regardez bien, c'est dans le texte, tous sont des hommes vierges. Comme si Victor Hugo estimait que pour être vraiment fidèle à soi-même, pour être un homme contrôlé, il faut être comme la légende dit que Saint-Jean était, c'est-à-dire ne s'être jamais approché d'une femme. Alors vous me direz, bon, Victor Hugo a une espèce d'éloignement de la chair, il cède à toutes ses tentations, mais il se condamne, parce que c'est un malheureux élève des curés. Mais justement pas. On ne sait pas assez aujourd'hui que Victor Hugo a totalement échappé à la grève chrétienne, comme disait Voltaire. Hugo n'a pas été baptisé, parce que son père et sa mère étaient aussi voltairiens que l'un de l'autre. Hugo n'a jamais fait de première communion. Alors quand il faudra se marier, il faut apporter un certificat, hein. Eh bien, Lamennais, qui était lié avec Victor Hugo, dira, écoutez, le général ne sait plus, parce qu'il a été tellement, il a fait tellement de garnison, il ne sait plus à quel endroit vous avez baptisé, ni à quel endroit vous avez fait sa première communion, mais il m'atteste, le général m'atteste, disait Lamennais, qu'il a bien fait, vous avez bien fait baptiser et fait faire votre première communion. C'était pas vrai. Je crois pas que Victor Hugo ait jamais fait ses Pâques, même quand il s'est marié avec une petite Adèle Fouché qui était assez chrétienne, je crois que ça ne l'intéressait pas. Et Victor Hugo, assez rapidement, passera même à l'opposition ouverte contre les idées chrétiennes. Figurez-vous qu'en 1829 et 30, il va écrire dans Notre-Dame de Paris un chapitre qu'il n'osera pas intercaler, insérer dans la première édition. C'est dans la deuxième ou troisième édition que vous le verrez, ce chapitre. Et ça s'appelait « Ceci tuera cela ». Ceci, c'est l'imprimerie, et cela, c'est la superstition chrétienne. Cependant, lorsque Victor Hugo est pair de France, et qu'il est ce noble père de famille qui est reçu à la cour, il prendra une attitude qui m'agace beaucoup, mais qui était connue à cette époque-là, l'attitude du respectueux éloignement. Hein. Soi-même, on est trop intelligent pour aller à la messe, bien entendu, mais il faut que les enfants soient bien élevés. Il faut que les enfants aillent au catéchisme, il faut que les enfants fassent leur première communion. À ce point que lorsqu'Adèle, qui était née en 30, va faire sa première communion en 1842, alors Victor Hugo, très convenablement, parce qu'il est riche et qu'il est pair de France, va offrir deux bénitiers que vous pouvez voir aujourd'hui en forme de coquille, qui sont dans l'église Saint-Paul, qui est sa paroisse où il ne mettait jamais les pieds. En 1849, quand Hugo est si préoccupé, comme vous l'avez vu, par ce problème de la misère, il se dit avec beaucoup de naïveté, mais les trois quarts de cette chambre, cette assemblée nationale, sont des catholiques, se donnent pour des catholiques. Par conséquent, si je leur parle un langage chrétien ou un langage d'humanité, ils vont me soutenir. Ben, vous avez vu ce qui s'est passé. Au lieu de le soutenir, au contraire, on a essayé de le scier. Alors, il commence à se poser des questions, mais ces gens qui s'annoncent catholiques, est-ce qu'ils le sont véritablement? Et l'année suivante, en 1850, lorsqu'il s'agira de voter la loi Falloux, il va faire une déclaration qui m'intéresse beaucoup, qui est du 15 mars 1850, et la loi Falloux va être votée qui est du 15 janvier 1850, alors que la loi soit votée en mars 1850. Et il distingue entre les cléricaux, si vous voulez, entre guillemets, et les catholiques. Et il dit, ah, je ne vous confonds pas avec l'Église. Vous êtes les parasites de l'Église. Vous êtes la maladie de l'Église. Ne l'appelez pas votre mère pour faire d'air votre servante. Vous vous faites si peu aimer que vous finirez par la faire haïr. Ce sont des paroles que je trouve assez prophétiques. Et bien Victor Hugo essaye de distinguer les cléricaux et le pape et les catholiques, mais il ne pourra plus le faire à partir du 1er janvier 52. Qu'est-ce qui s'est donc passé ce jour-là? Ben vous avez vu l'attitude de Louis-Napoléon Bonaparte qui avait fait tirer sur la foule, et vous ne savez peut-être pas que le 1er janvier 1852, spontanément, l'archevêque de Paris avait décidé de chanter un Te Deum à Notre-Dame en l'honneur de ses parjures et de cet assassin. Alors c'est fini, il est irréconciliable à l'égard de l'Église. C'est fini, jamais plus, il se rapprochera de ces gens qui sont des démissionnaires. Mais c'est en même temps, c'est le moment même où Victor Hugo va faire quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant « Je ne lui connaissais pas ce goût des causes perdues » et il va prendre une décision qui correspond à sa vie intérieure. Il y a un très beau chapitre que vous pourrez regarder dans Napoléon le Petit. Victor Hugo parle de la question du devoir. Enfin, il y a au fond de nous, dit-il, quelque chose qui nous commande, appelons ça comme nous voudrons, la présence de Dieu, enfin une idée du bien que nous avons au fond de nous. C'est le moment où Victor Hugo est le plus loin de l'Église catholique, il est le plus près peut-être de la noblesse intérieure. Hugo est un homme qui ne cessera pas de tourner autour de ce mot Dieu. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'insimilable à notre raison sous cette syllabe vertigineuse ? Hugo est quelqu'un qui a été très fasciné par une expression qu'on trouve, paraît-il, chez saint Paul, je ne me rappelle plus où, « si forte attracta veremus », l'idée d'une main tendue dans l'infini pour essayer de toucher les contours de Dieu. On n'y arrive naturellement jamais. Hugo va se faire ridiculiser par Georges Sand, qui est un esprit assez bas, vous savez. Parce qu'il a vu l'imprudence écrire à Georges Sand en 56, je crois, et lui disant « je suis plus sûr de l'existence de Dieu que de la mienne ». Georges Sand avait trouvé ça très marrant et faisait circuler dans les cafés littéraires de Paris cette épître grotesque de Victor Hugo. Ne rions pas tout de suite des mouvements spirites que Victor Hugo va faire. Victor Hugo se demande si à travers les tables tournantes on n'arrive pas tout de même à des communications. Il le fera pendant un certain nombre de mois quand il est à Jersey et avant d'aller à Guernsey, puis il cessera, il a pris peur du reste. Un de ses camarades de table, si je puis dire, était devenu fou pendant une séance. Il a peur d'avoir frôlé des régions interdites. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Victor Hugo va être hanté, oui, c'est le mot juste, hanté toute sa vie jusqu'à sa mort, par ce qu'il appelle des phénomènes mystérieux. Il a tout le temps l'impression qu'il y a des présences autour de lui. Il entend des coups qui sont frappés soit dans son mur, soit dans le bois de son lit. Des paroles, plus ou moins confuses, sont prononcées à son oreille. Il a l'impression qu'on le touche. Je vais vous apporter deux textes, là, deux détails que je prends dans ces carnets intimes et qui sont saisissants tellement que je ne puis pas les commenter. Je ne puis que vous les lire, vous les rapporter. Il y en a un qui est du 24 juin 65. Il est à Guernsey, il est en exil. Il a entendu une fois de plus ces coups qui sont frappés dans son mur et il a l'impression que ce sont des âmes souffrantes qui lui demandent de prier pour elles. Alors Hugo, avec un côté un peu enfantin, si vous voulez, prie comme prient les enfants avec ses mains jointes. Et il écrit « Mes deux mains qui étaient jointes dans la prière ont été arrachées l'une à l'autre par une force inconnue et irrésistible. » Je commente pas. Et maintenant, 12 juin 77, il a donc 75 ans. Ça ne se passe plus dans cette solitude océane où on peut dire que son esprit était peut-être troublé. Ça se passe dans un appartement de Paris, rue Rochechouart. Victor Hugo écrit ceci. « Un coup violent me réveilla. Un coup violent frappé à ma porte me réveilla. » C'est suspect, hein, il peut peut-être avoir entendu ça dans son rêve, dans son sommeil. Je me dressai dans mon lit quand un nouveau coup branla la porte, si fort que je criais « Entrez !» Je me levai, dit Victor Hugo, qui a pris note tout de suite, je me levai, j'ai ouvert la porte. Et puis quand il revient, il dit « J'ai ouvert, il n'y avait personne. » Et évidemment, il y avait quelqu'un. « Credo in Deum aeternum et in animam immortalem. » Très souvent, vous savez, on nous parle de Victor Hugo comme un homme nocturne. Je pense à de très beaux textes de Claudel qui disent « Victor Hugo, regardez ses dessins, enfin, ce sont des dessins qui sont accablants, il y a toujours des ciels dévorés, il y a toujours des tempêtes, il y a toujours des ruines. C'est un homme qui était complaisant à la nuit, ne le croyez pas. » L'ombre est large, vaste, dans l'œuvre de Victor Hugo, comme Dieu sait, vous l'avez vu, elle était forte sur sa vie, l'ombre. Mais en même temps, mais à côté, il y a des textes solaires, multiples chez Victor Hugo. On cite toujours Dolor, Aurore ou Pleurs dans la nuit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne cite pas des choses comme ceci? La vaste joie est réveillée. Quelqu'un rit dans le grand ciel clair. C'est le même Victor Hugo qui dit, heureusement qu'il y a au-dessus de cette terre sinistre les grandes constellations incontestables. Hugo est un homme qui vous dit que si Dieu est inaccessible à notre esprit, il ne l'est pas à notre cœur, et que s'il échappe à notre connaissance, il ne se dérobe pas à notre contact. C'est Victor Hugo lui-même qui dit le cœur au sens pascalien, vous savez, le cœur ne peut errer, le cœur est la grande prunelle. Et savez-vous qu'en 1870, il avait jeté la profession de foi, que voici, je suis à toi, jour, clarté, joie. Je suis à toi, toute puissance. Je suis à toi, toute innocence. Je prends mon être pierre à pierre, la première est de la lumière et la dernière est de la foi. Bon, nous allons quitter ce personnage complexe, avec des amis devant lui certainement. Je voudrais vous rappeler seulement ceci que, le jeune Barrès, lorsqu'il est entré pour la première fois dans les couloirs du Sénat, il a reçu une espèce de choc au cœur quand il a vu arriver quelqu'un dans le déchet Victor Hugo. C'est un vieux petit bonhomme, vous savez, qui avait la peau très tavelie, qui avait la barbe un peu en désordre, une barbe blanche et des cheveux qui peignaient mal. Il s'habillait mal parce que il achetait ses vêtements tout faits à la belle jardinière et qu'il les déformait tout de suite à cause de tout ce qu'il mettait dans ses poches. Ce qui fait que des gens aussi distingués que les Goncourt disaient, mais il est vulgaire, ce Victor Hugo, oui. Eh bien, Barrès lui dit, quand j'étais en présence de Victor Hugo, je me suis dit que je suis en présence de quelqu'un d'exceptionnel, hein. Enfin, quelqu'un qui me ferait penser aux prophètes de l'Ancien Testament. Alors on a envie de rire tout de suite, enfin les prophètes tout de même, Ézéchiel, Victor Hugo, ça a une distance, attention, hein. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils bénéficient des lointains qui augmentent toujours les statures, alors que nous voyons d'un peu trop près Victor Hugo en pantoufles et qui court après ses bonnes. Représentez-vous tout de même que Victor Hugo est l'homme qui, en face du Sennacherib de décembre, a dit « Je suis la voix qui dit malheur, la bouche qui dit non ». et quelqu'un qui, s'adressant aujourd'hui même à chacun de nous, dit ceci: soit l'intrépide chez les lâches, et soit le vivant chez les morts.